Eh bien, bonjour tout le monde. Ouais, c'est bien ça d'avoir une réponse, c'est comme ça je me sens pas seul. Est-ce que je devrais prendre ça ou pas, là? Donc, ça fait 2 semaines que je suis à l'extérieur. Dans les 2 dernières semaines, j'étais à, je m'allais dire au Vietnam, mais j'étais à l'église vietnamienne. Et j'ai un peu moins de budget, là. Oui, ça se passe en vietnamien, donc ça a été le fun d'aller visiter l'église qui est pas très loin de la nôtre. En fait, je pensais pas qu'elle était si proche que nous. En fait, c'est à 8 minutes de chez moi, c'est vraiment collé où est-ce que j'habite. Et donc c'est ça, l'autre semaine, j'ai été prêcher à Noyant, donc ça fait deux semaines que je suis pas à la maison. Je suis content d'être ici ce matin et de pouvoir apporter la parole. Donc, aujourd'hui, j'ai une grosse introduction, mais... On va regarder ensemble un des textes qui était dans E100 concernant les écrits de Paul. Et puis, mais avant, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur différentes approches qu'on peut avoir par rapport à la Bible. On peut approcher la Bible comme, en fait, je sais pas si mon PowerPoint, vous voyez là. OK. On peut approcher la Bible comme si elle était un réfrigérateur. C'est vrai, n'est-ce pas, hein? Qui d'entre vous approche la Bible comme ça? Mais si on approche la Bible dans cette perspective-là, on va aller à la Bible pour se nourrir spirituellement, pour, dans le fond, être fortifié dans notre être intérieur, pour avoir des encouragements de la part du Seigneur, pour être inspiré dans notre marche chrétienne à trouver la force, dans le fond. Jésus n'a-t-il pas dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc, dans cette perspective, la Bible est comme un peu... un réfrigérateur ou des aliments, dans le fond, plutôt, qui nous nourrit. Et puis, c'est vrai que la Bible nous nourrit, mais il y a encore une meilleure façon, d'après moi, d'approcher la Bible, parce que la Bible vise plus que notre alimentation spirituelle ou notre fortification spirituelle. Une deuxième approche à la Bible, c'est comme si elle était une boussole. Et... les gens qui vont voir la Bible comme une boussole vont l'approcher pour avoir des directions face à des choix importants de vie. Ces personnes-là vont... Ben, en fait, on peut avoir chacun un peu de toutes les approches, là. Mais lorsqu'on approche la Bible comme une boussole, c'est on veut que Dieu nous parle pour des décisions importantes de notre vie. C'est quoi la prochaine étape, Seigneur, pour ma vie? Et encore là, il y a des versets dans la parole qui peuvent aller dans ce sens, comme le psaume 38, verset 2. Qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Encore une fois, bien que c'est vrai que Dieu désire nous guider, je pense que il y a une meilleure approche encore à la Bible. Parce que la Bible vise plus que notre direction, notre orientation spirituelle. Une troisième approche, c'est celle des médicaments. Approcher la Bible comme si c'était un médicament. Et puis, je pense que vous vous doutez un petit peu là de qu'est-ce que l'idée derrière ça. C'est l'idée de trouver une solution à des maux, M-A-U-X, de trouver dans le fond de l'espoir, peut-être par rapport à une situation qui va mal. Donc, on approche les Écritures puis on veut puiser encore là quelque chose qui va nous apaiser, nous restaurer, nous guérir. Et c'est bon. Ces trois approches-là sont des bonnes approches. C'est infiniment mieux approcher la Bible de cette manière que de ne pas l'approcher du tout. Vous êtes d'accord? Good. Donc, c'est encore là, il y a un verset qui peut aller dans ce sens. Jésus a dit, en Luc 5, verset 31, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades, exactement. » Donc, il y a des versets qui vont dans le sens de chacune de ces perspectives-là. Mais encore, la Bible vise plus que notre restauration, notre guérison. Donc, je veux être clair, approcher la Bible pour être fortifié intérieurement, pour être dirigé par le Seigneur ou pour être restauré sont des bonnes approches. C'est super bon. Mais il y a une approche qui va encore plus loin, puis c'est cette approche-là que j'aimerais vous parler un petit peu. Et c'est l'approche de... Dans le fond, de venir à la Bible comme s'il était un livre dont il faut changer le titre. Un livre dont il faut changer le titre. Et quel titre devons-nous lui donner? Bien d'abord, pourquoi changer le titre de la Bible? Qu'est-ce que fait un titre? Exact. Elle a dit, ça nous dit de quoi ça va parler. Un titre annonce le sujet principal du livre. Et le problème avec la Bible, c'est que le mot Bible veut dire livre. Fait que c'est quoi le sujet du livre? On le sait pas. Mais d'après vous, c'est quoi le sujet principal de la Bible? Jésus, OK. D'autres personnes veulent essayer? Hein? Le plan de Dieu, OK. L'amour. Dieu qui se révèle, le salut. OK, interaction entre Dieu et les hommes, les deux en même temps. L'action de Dieu au cours de l'histoire. L'adoration. Excusez-moi? Pour nous instruire. OK. Maintenant, si je reformule la question un peu autrement, quel était le sujet principal de Jésus dans ses enseignements et ses prédications? Ah, le royaume de Dieu. C'est intéressant de voir dans les évangiles que Jésus parle beaucoup, beaucoup du royaume de Dieu. Et souvent, en fait, toutes ces paraboles vont commencer comme ceci. Ben, j'ai quelques citations ici. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du champ et s'en alla. Notre passage, Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un homme, à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers. Et parabole après parabole, on voit que les paraboles visent à illustrer qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et c'est intéressant. Et moi, je propose que on intitule notre Bible Le retour du royaume. Parce que, dans le fond, quand on considère ça dans une perspective globale, la Bible, c'est qu'au début, Dieu crée un royaume parfait, extrêmement beau, extrêmement bon, etc. Et déjà au chapitre 3, le royaume est gâché, l'ennemi s'est infiltré et a réussi à tourner ça en ténèbres. Et du chapitre 3 de la Genèse au chapitre 11 de la Genèse, c'est comment ça va de plus en plus pire dans le monde et comment les ténèbres prennent de plus en plus de place. Mais à partir du chapitre 12, Dieu choisit une personne, Abraham, et par lequel il va infiltrer à son tour, comme Satan a infiltré son royaume, Dieu va infiltrer le royaume de Satan, si on veut, par l'entremise de personnes choisies pour le faire connaître. Donc, moi, je propose que nous intitulions notre Bible. En fait, j'ai même pris le temps, j'ai pris ça au sérieux, là, c'est pas... J'ai même retitré ma Bible pour vrai. J'ai pris un papier, puis j'ai écrit « Le retour du royaume » et j'ai même un sous-titre « Reconquérir toutes les nations » parce que le but de Dieu, c'est de reconquérir toutes les nations et pas juste l'Occident ou certaines parties du monde. Donc, c'est la lunette avec laquelle je veux approcher la Bible et que je vous invite à peut-être même ce soir, prendre un petit morceau de papier et écrivez le retour du royaume, reconquérir toutes les nations, parce que ça nous décentralise de nous quand on fait ça. Quand on approche la Bible, OK, le titre de ce livre-là, c'est Le retour du royaume. Donc, je vais me poser la question, comment je peux m'inscrire dans ce sujet-là, on pourrait dire, dans le plan de Dieu pour reconquérir toutes les nations, pour ramener son royaume. Alors que si on approche la Bible comme un réfrigérateur, des médicaments ou une boussole, on peut juste centraliser sur nous, on peut prendre la Bible comme un outil pour nous. Vous voyez la différence? Donc, c'est vrai que Dieu veut nous nourrir, nous fortifier, mais c'est pour qu'on puisse, pas l'aider, mais être un outil pour ramener le royaume. C'est vrai que Dieu veut nous guider, mais c'est pour être un outil pour ramener le royaume. Et c'est vrai que Dieu veut nous guérir, mais c'est pour être un outil pour ramener le royaume. Amen. En fait, ce matin, je veux qu'on regarde ensemble Éphésiens 6, versets 10 à 20. Et ça parle de combat spirituel. Et je voulais vraiment prendre le temps de cadrer le concept du combat spirituel dans cette idée de combat entre deux royaumes, entre celui de Dieu et celui de Satan, qui est l'ennemi. Donc, tournons ensemble dans Éphésiens 6. Quelques mots peut-être encore, alors que vous tournez sur l'idée du royaume. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a été crucifié avec l'inscription « le roi des Juifs », le roi comme celui qui a un royaume dans le fond. Et à son procès, Jésus, lorsque le souverain sacrificateur lui a dit « dis-le-nous franchement si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui répond en citant Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il dit, c'est comme tu l'as dit, oui, en effet, puis en vérité, vous verrez bientôt le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec gloire et puissance. Et lorsqu'on va voir cette citation de Daniel 13 et 14, on voit cette figure qui est le Fils de l'homme, un être céleste qui vient vers l'Ancien des Jours, et l'Ancien des Jours, qui représente Dieu en réalité, lui donne la royauté, lui donne la gloire et la puissance. Et après ça, ça dit « tous les peuples de la terre le servir, lui rendre un culte ». Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son royaume ne sera jamais détruit. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau quand tu vois que, dans le fond, c'est Jésus s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Souvent, c'est pas un terme qu'on aime utiliser pour Jésus. Hein, comme c'est rare qu'on le loue comme étant le Fils de l'homme dans nos chants, mais c'était le terme qui s'appliquait. Et il le comprenait dans la perspective de Daniel, comme je viens de dire. Et quand on va voir Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, c'est vraiment beau de voir que tout était déjà prévu et cette royauté de Jésus était déjà dans la vision que Daniel avait eue. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve beau de voir dans les Écritures, ce fil conducteur. Lisons ensemble Éphésiens 6, 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Prions. Bien, Père Céleste, on vient devant toi ce matin ensemble et on veut te remercier pour ta parole, cette parole vivante. Et on te demande d'ouvrir nos oreilles et de prédisposer nos cœurs pour qu'on puisse entendre ce que ton esprit veut dire à chacun d'entre nous. Et Seigneur, puisses-tu venir nous fortifier, puisses-tu venir nous donner, Seigneur Dieu, d'être orienté vers le bon ennemi dans le combat, Seigneur Dieu, et donne-nous une nouvelle passion pour la prière, l'intercession, Seigneur. Je te demande de vraiment faire ces choses par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc, verset 10, j'ai mis ici quelques traductions différentes. Fortifiez-vous dans le Seigneur, soyez puissants dans le Seigneur, ou puisez votre force dans l'union du Seigneur, qui est dans le fond l'idée principale, qui doit être, c'est un impératif que Paul place face à un moment dans le temps qui s'en vient, qui est celui d'être dans le fond prêt quand que le diable va frapper, quand l'opposition va venir. Donc c'est vraiment en vue de, en prévision de, qu'il dit aux Éphésiens de s'ancrer dans le Seigneur et puis de vraiment chercher à être fort en Dieu. Et cette idée, Paul la reprend juste deux chapitres plus tôt, dans sa prière, alors qu'il prie en Éphésiens 3, versets 14 à 21. Il prie pour les Éphésiens, et c'est intéressant de voir c'est en quoi est-ce que, justement, Paul pense que les Éphésiens vont être fortifiés. C'est, on va le lire ensemble, versets 14 à 17. Donc, du chapitre 3. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Et dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Donc, deux choses. Paul prie pour qu'on soit fortifié par l'esprit, et qu'on soit enraciné dans l'amour de Christ. Et c'est intéressant parce qu'un peu plus loin, il va dire que ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Il donne des lignes directrices sur comment être rempli du Saint-Esprit. Et il dit, par exemple, de chanter de tout cœur des hymnes et des louanges, etc. Donc, certainement, la louange, c'est un moyen de se fortifier dans le Seigneur. C'est un moyen de vivre pleinement, consciemment dans la présence de Dieu, par lequel cette présence-là vient nous fortifier. Et un autre élément, c'est la parole de Dieu, d'être ancré dans cet amour que Christ a manifesté et qui est manifeste dans l'Épître ici. Moi, j'aime voir l'idée de se fortifier en reprenant chacune des armes qu'il donne. Il donne à partir du verset 14 la vérité comme ceinture. C'est toutes des images dans le fond, mais l'idée, c'est les vertus qu'il faut qu'on se centre sur. Donc, la vérité comme ceinture, la justice, le zèle, la foi, le salut, méditer sur le salut que Christ nous a acquis et sur notre statut devant Dieu de justifier et la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 16, quand il dit qu'il faut prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, dans le grec, il y a un temps de verbe, plutôt une voix dans le fond, un aspect qui n'est pas en français. Pour le mot enflammé, dans le fond, les flèches enflammées, c'est un parfait. Et le parfait véhicule l'idée que Satan a allumé la flèche, mais que, et cette action-là est complétée, mais que l'effet perdure, les flèches sont encore allumées. C'est comme si Paul est en train de dire, les flèches sont allumées en ce moment, là. Préparez-vous en ce moment, ça sent le brûler, là, tu sais, sortez votre bouclier. Et puis, c'est vraiment intéressant aussi parce que Paul utilise ici l'image de soldats romains. Et les soldats romains étaient considérés comme vraiment invincibles tant et aussi longtemps, j'ai une petite citation que je vais trouver là, tant et aussi longtemps qu'ils gardaient les rangs, ils étaient considérés comme étant invincibles, puis ils avaient aussi des boucliers qui mesuraient, c'est ça, Ah, je pense que je l'ai pas imprimé. Ah, bon. Donc, les soldats romains étaient en cohorte et ils avançaient pas par pas ensemble. Et ils avaient des gros boucliers de 4 pieds de haut et environ 2 pieds de large. Et lorsque, justement, l'ennemi tirait des flèches, ils avaient des boucliers tous en avant. Puis les autres, ils mettaient leurs boucliers comme ça. Et puis, ils étaient vraiment comme, c'était impossible de les atteindre de cette manière-là. Et leur armée, c'est comme je disais, était tellement forte que ça disait dans la citation, que tout ce qui comptait, c'était qu'ils restent fermes, ils avancent ensemble, puis qu'il n'y en ait pas qui recule, qui décide, oh non, c'est j'ai trop peur, je retourne en arrière. Donc, de rester ferme dans le fond, puis d'avancer pas à pas aux commandements qui sont donnés. Et de cette manière-là, ils gagnaient facilement leur bataille. Et aussi, dans les guerres romaines, il y avait les ambassadeurs. Comme Paul dit à la fin, du passage, il dit que priant tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, veillez avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Et verset 20, donc il va dire que il est prisonnier, puis pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc en temps de guerre, les armées des fois envoyaient des ambassadeurs, et l'ambassadeur visait justement à établir la paix entre les deux parties. Mais donc c'est ça, Paul utilise vraiment cette image, et c'est vraiment intéressant de voir que c'est ça, c'est comme la guerre. Préparez-vous pour la guerre, parce que Satan frappe et faut être prêt. Donc ici, j'ai une petite image que j'ai tirée de Renversant les forteresses 2 que Michel a fait, qui illustre un petit peu là cette idée d'être fortifié, puis de notre état en Christ. Lorsqu'on devient chrétien, le Seigneur nous donne une puissance. Ben justement, on va voir ça. Cette première image illustre la courbe, illustre la création, dans le fond. Et on voit l'homme et la femme, donc l'être humain, homme et femme, à la création, qui vivent dans le premier royaume dont j'ai parlé tantôt. Mais à la chute, Satan vient et réussit à avoir une certaine domination sur eux. Ce qui fait que, dans le fond, le monde passe du pouvoir de Dieu à Satan, si on veut. Et Christ, quand il vient, bon, il va mourir à la croix, et des passages qu'on va lire bientôt démontrent que par cette mort, il a réussi à enlever le pouvoir de Satan. Il a réussi, et de toutes les forces des ténèbres. Et par sa résurrection, c'est maintenant lui qui règne sur le cosmos, sur le monde, sur l'univers. Et le dernier passage illustre le fait que quand on devient chrétien, spirituellement parlant, Dieu nous, c'est comme s'il nous transfère en Jésus, qui lui règne sur le monde. Donc, on est avec lui dans les lieux célestes, et nous avons autorité maintenant sur les forces démoniaques et sur le diable. Donc, nous pouvons, nous, exercer la puissance de Christ, dans le fond, sur le monde des ténèbres. Donc, peut-être lire ensemble Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est l'idée de notre combat, il est comme contre Satan, là. Vous voyez, là, le premier cercle avec le petit serpent, là, qui est dur à voir, mais notre combat est à ce niveau-là. Deuxième passage, qui est dans 1:20. Donc, on parle que Dieu a mis sa puissance en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de tout, de celui qui remplit tout en tous. Donc, on voit vraiment dans ces versets-là l'idée qu'on est rendu avec Christ dans les lieux célestes, et que, dans le fond, le combat, on l'exerce dans la victoire. On l'exerce pas comme pour ramener le royaume, dans le sens que tout dépend de nous. Au contraire, tout dépend de Dieu, mais Dieu nous donne le privilège d'entrer avec lui dans la mission et de vivre dans la victoire. Donc, ici, il me reste 2, versets 5 et 6. Où est-ce qu'on voit ça, cette idée-là? Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir la richesse abondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et là, il y a le fameux passage tout de suite après. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et là, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a cette idée que Christ nous donne la puissance, et non seulement la puissance, mais il nous a apporté avec lui dans les lieux célestes, et que ce combat spirituel que l'on exerce, c'est par la puissance que Christ nous donne, mais c'est aussi par l'opposition, dans le fond, qu'il nous donne. Cependant, il semble vraiment y avoir dans le passage comme une exhortation à dire « Ok, oui, Dieu nous a donné cette puissance-là quand on devient chrétien. On a la puissance, on peut prendre autorité dans le nom de Jésus contre les esprits méchants, mais fortifiez-vous. Faites attention parce que faut pas prendre pour acquis cette puissance-là, mais au contraire, jour après jour, se fortifier dans le Seigneur. » J'ai ici une citation très intéressante dans un livre qui s'appelle « Les 21 lois irréfutables du leadership ». C'est irréfutable, vous pouvez pas rien dire. Page 28-29, c'est John Maxwell. En fait, il cite un boxeur et un président. En fait, c'est tout avec l'image de la boxe. Mais bien que ça parle du leadership, je pense que c'est transférable à l'idée de devenir fort et solide dans le Seigneur, devenir des chrétiens affermis. Et il parle de ce vieux dicton, les champions ne deviennent pas des champions dans le ring, les champions de boxe, là. Donc, les champions ne deviennent pas des champions dans le ring. C'est simplement là qu'ils sont reconnus. Si vous voulez voir où quelqu'un se transforme en champion, regardez quelle est sa routine journalière. Joe Frazier, l'ancien champion de boxe catégorie poids lourd, déclara « Vous pouvez faire un plan de combat ou un plan de vie, mais quand c'est le moment de l'action, il ne vous reste que vos réflexes. C'est là que votre entraînement se révèle. Si vous avez triché là-dessus, quand il fait encore nuit, le matin, vous êtes bel et bien révélé sous les projecteurs. » Donc, il parle de cette image de la boxe comme étant une image qui nous dit que c'est dans notre routine journalière, c'est dans notre préparation quotidienne, c'est dans ce que l'on fait à chaque jour que lorsque le moment arrive, c'est là que on voit si la personne est prête ou pas. Et Paul vraiment va dans ce sens-là en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. » Puis après ça, il va dire de prendre l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et un peu plus loin, il va dire encore une raison « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, c'est vraiment de cette idée de dans le quotidien, trouver la puissance, puiser notre force en Dieu pour être prêt quand les moments d'opposition, de difficulté viennent. J'ai essayé de retrouver dans un livre cette idée-là. J'ai juste l'idée vaguement, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que c'était dans un livre sur l'apologétique que j'avais entendu, mais ça disait que comme la grande majorité des couples qui ont perdu un enfant, beaucoup vont divorcer. Et il y avait une étude qui avait été faite, dans le fond, sur qu'est-ce qui faisait en sorte que des couples divorçaient ou pas après la perte d'un enfant. Et ce qui avait ressorti dans l'étude, c'est que ceux qui demeuraient ensemble après, dans le fond, cette grosse crise, c'était ceux qui avaient d'avance réfléchi sérieusement à la question du mal, la souffrance et de Dieu, pourquoi il permet les épreuves, etc. Et qui avaient vraiment une pensée claire à ce niveau-là, que dans le fond, ils étaient prêts. Dans le fond, ce que ça disait l'étude, c'est que dans leur quotidien, ils avaient une réflexion, puis se sont préparés dans une certaine mesure à... leur pensée était prête à absorber le coup, dans le fond, de la perte d'un enfant. Et ça a été vraiment un élément, un facteur important qui a fait la différence entre certains couples qui, eux, ont pas accepté, ils se sont divorcés, et d'autres qui ont continué à vivre ensemble. Donc, j'ai pas les détails, là, les sources, tout ça, mais je me souviens, j'avais lu ça, ça m'avait frappé. Et encore une fois, dans cette idée-là de se préparer à de puiser notre force jour après jour dans le Seigneur pour être prêt quand l'opposition vient. Il cite le président Theodore Roosevelt par la suite, et c'est une belle citation. Il dit, ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui fait remarquer comment l'homme fort a trébuché ou dans quel domaine le faiseur d'exploits aurait mieux fait. Le crédit revient à l'homme qui est en fait dans l'arène, dont le visage est maculé de poussière, la sueur et le sang, qui connaît les grands enthousiasmes, les grands attachements et se dépense pour une cause noble, qui, dans le meilleur des cas, finit par connaître la victoire pour un haut fait et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en faisant preuve d'une grande audace, de telle sorte qu'il ne figurera jamais parmi ces hommes froids et timides qui ne connaissent ni victoire ni défaite. Mais je vois dans cette dernière citation l'idée de se battre pour une cause noble. Et puis ça pourrait être une de mes questions pour vous ce matin. Oui, il y a le combat spirituel et c'est général, ça peut nous paraître abstrait, mais quel est votre combat à cette étape-ci de votre vie dans le Seigneur? Est-ce que vous avez, ou dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez un combat? Est-ce que vous avez une cause qui vous tient à cœur? Ou ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur un ministère dans l'Église, ça peut être même sur le plan de la société, à faire une différence à ce niveau-là. Avez-vous un combat dans le Seigneur, une cause que vous voulez, que vous avez à cœur pour voir un peu plus le royaume de Dieu à quelque part, que ce soit dans une relation, couple, enfant, parent, enfant, au travail, ou est-ce que vous avez un combat? Et je pense que c'est bien d'orienter tout ce thème ce matin du combat spirituel par rapport à où est-ce qu'on est rendu nous personnellement. Et certainement pour ma part, il y a l'avancement du royaume de Dieu ici dans notre église et dans le quartier et dans cette communauté où est-ce que Dieu nous a placés. J'aspire à avoir aussi à ETMIBV une génération de jeunes leaders solides dans le Seigneur et bien formés, etc. C'est une cause qui me tient à cœur. Et aussi par mon blog, j'espère que Dieu m'utilise pour parler à des gens un peu partout sur la planète. Donc ça c'est ce que j'ai à cœur, ça c'est mes causes. Mais quelle est votre cause? Comment Dieu vous utilise pour l'avancement de son royaume? Et comment votre préparation quotidienne vous aide à devenir de plus en plus fort pour avoir un impact de plus en plus important pour Dieu. Deuxième volet de ma prédication, c'est plus par rapport à faut avoir la bonne cible maintenant. On a des combats, on a des causes qu'on a à cœur. Dans le verset 12, c'est comme si ça nous oriente le focus à la bonne place. Donc, je vais le lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, c'est facile pour nous dans ce qui nous tient à cœur, et quand l'opposition, le conflit vient, d'associer la source du mal, dans le fond, à la chair et le sang, à la personne devant nous. Mais ici, Paul fait quelque chose de quand même courageux. Il dit que non, c'est le diable. Et puis, il peut y avoir dans cette idée comme un danger d'associer la source du mal au diable, dans le sens que les gens peuvent venir peut-être à se déresponsabiliser. Mais je pense que Paul ici, ce qu'il dit, c'est ultimement, la source ultime du mal, c'est le diable. Et ça, faut se souvenir de ça, que c'était lui qui était dans le jardin d'Éden au tout début. Et nous, oui, on est des agents intermédiaires du mal, on a des choix, on a une responsabilité, mais notre combat doit aller enrayer le problème à la source. Et donc, c'est le focus qu'on doit avoir. Et ce focus-là, c'est seulement par la prière et l'intercession que nous pouvons, dans le fond, avoir un impact. C.S. Lewis a dit ceci dans son livre « Tactique du diable ». Au sujet du diable et des démons, les hommes peuvent commettre deux erreurs. Elles sont diamétralement opposées, mais aussi graves l'une que l'autre. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à y croire, mais à leur porter un intérêt excessif et malsain. Eux-mêmes s'estiment heureux de l'une comme de l'autre, et acclame avec le même enthousiasme le matérialiste et le magicien. » Peut-être que certains d'entre nous voyons du diable partout et puis peut-être qu'on devrait comme juste comme non réfléchir à au fait que on a une part à jouer là-dedans, on a des responsabilités, comme j'ai dit, on est des agents intermédiaires, puis peut-être que on peut faire des choix qui va faire en sorte que on n'aura pas tel problème dans notre vie. Ça peut être des je sais pas. Ça peut être lié à la dépression des fois. Je pense qu'on a une responsabilité, puis on ne peut pas toujours mettre ça sur des forces extérieures à nous. L'autre côté, peut-être qu'il y a certains d'entre nous ici ce matin qui ont un peu plus du côté du matérialiste, va trouver des raisons scientifiques ou médicales à tous les pas à tous les problèmes, mais va tendre plus vers ça, puis va négliger le combat spirituel et le fait que hey, c'est l'ennemi est vraiment là. Et puis c'est une réalité que dans le fond on peut juste c'est par la puissance de Jésus qu'on va pouvoir y contrevenir. Et puis oui, c'est beau la médecine, oui, c'est beau toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur le plan de notre sagesse humaine, mais à un certain point l'ennemi est dépasse ça et puis il faut une réponse qui est adaptée. Deux exemples de comment le combat spirituel a pu prendre forme dans ma propre vie. Un exemple vraiment drastique, un exemple plus subtil. Le premier, j'étais à la banque alimentaire à un moment donné. Je faisais des livraisons à la fin. On préparait des boîtes, puis j'en prenais dans ma voiture. J'allais les mener à certains endroits. Et à un moment donné, j'ai été sur l'île Bizarre et puis... donc, c'était pas la première fois que j'allais mener une boîte à cet endroit-là, mais là, je cogne, et puis la madame arrive après un certain temps, et là, je vois comme au travers la porte qu'il y a un homme qui sort de la même pièce où est-ce que la femme était juste avant d'arriver, et il s'en va tout de suite ailleurs, donc là, elle m'ouvre la porte, je donne la boîte, et là, je pose des questions à la madame, comment qu'elle va, etc., tu sais, elle a commencé à venir à l'église tout récemment, donc, tu sais, je lui demande comment qu'elle a trouvé son expérience, etc., puis super sympathique, et là, à peine après une minute ou deux, l'homme qui est sorti de sa chambre revient, et là, il vient vers moi, et puis là, il me prend la main comme ça, puis là, il vient environ ça de mon visage, là, puis il me dit, salut, t'es qui, toi? Puis là, comme à ça, là. Puis là, j'ai comme senti. J'ai tout de suite senti que j'étais comme un peu dans la tanière de l'ennemi, si on veut. Et là, comme j'ai comme fait un pas de recul et j'ai dit, je m'appelle Sonny, je suis pasteur. Juste pour que, tu sais, comme spirituellement, comme on. Comme une démarcation, là, quelque chose. Et là, il me dit, ah, t'es pasteur. Mais moi aussi, je suis prêtre. Je suis prêtre de Satan. Et là, il était comme vraiment à ça, là, comme il n'arrêtait pas de venir. Et j'étais comme, ouh! Ça, c'était vraiment comme... Donc là, il commençait à dire plein de mensonges, comme je pense plus pour affecter la madame que moi, là, mais sur la Bible, etc. Et puis, donc peu à peu, j'essayais de m'en aller, puis l'agressivité montait. Et puis, en bout de ligne, je me suis rendu à ma voiture, puis il frappait dans ma voiture, dans ma fenêtre et tout. Et là, j'ai pris autorité dans le nom de Jésus. J'ai dit, bon, j'ai chassé... ben, c'est ça, je pense vraiment qu'il est animé à ce point-là, peu importe les causes qui ont pu l'amener à ça. Il sentait l'alcool, sûrement, bon, il y a l'alcool, il y a plein de choses qui sont, mais je peux vous dire que quand que vous vivez ça, vous savez que non, c'est pas juste des causes naturelles, il y a vraiment comme un combat spirituel. Donc j'ai pris autorité, il a arrêté de frapper, je suis parti, et puis par la suite j'ai arrêté chez Michel, on a pris ensemble parce qu'il habite dans ce coin-là. J'étais prendre un café avec Benjamin et en revenant de notre café ensemble, on a vu une ambulance passer avec une voiture de police en arrière de la rue où est-ce que, dans le fond, la personne habitait. Là, Benjamin me dit, hey, tu penses que ça pourrait être le gars? C'est rare, c'est une ambulance avec... avec une police en arrière, tu sais. Et je sais pas, ça se peut, tu sais. Et là, finalement, on a appris le lendemain avec Mimi qu'effectivement, c'était le gars qui a essayé après ça de se suicider après que je sois parti. Et heureusement, la femme n'était pas toute seule. Il y avait un propriétaire aussi qui était là. Et le propriétaire a réussi à le maîtriser pendant que la femme appelait le 911. Donc, wow, ça, c'était vraiment comme marquant. Je peux vous dire que c'était le combat spirituel, puis c'était concret. Mais je pense que ça, c'est un exemple drastique. Il y a des exemples beaucoup plus subtils. Je pense que l'ennemi est beaucoup plus efficace à être subtil, puis à nous désorienter, comme à nous décentraliser du royaume de Dieu, puis de nous centraliser plus sur nous et sur nos préoccupations et sur nos besoins. Et parfois, ce combat plus subtil peut prendre la forme de peut-être de petits conflits qu'on peut avoir. Puis c'est comme un peu une atmosphère. Des fois, je repense à ça dans la dernière année, à un moment donné, j'avais une discussion avec une personne sur un point banal. Et là, c'est comme si le conflit, il prenait de plus en plus d'ampleur et c'était tellement banal la question qui était à la source. Là. À un moment donné, j'étais en train de réfléchir, OK, on est rendu à ce point-là. Pour cette question-là, non, ça fait pas de sens. Là, j'ai pris autorité dans le nom de Jésus, ben comme juste à voix basse, comme ça. Et puis, j'ai vraiment vu en 2-3 minutes, c'est comme si toute l'atmosphère a changé. Et puis on a réglé ça. Et puis c'était comme waouh, tu sais, c'est non, ça, je pense que c'était un combat spirituel, mais c'était subtil. Ça, c'était. Fait que, je pense que c'est ça. Faut, comme C.S. Lewis le dit, faut garder les deux extrêmes. Faut se garder des deux extrêmes. Faut pas voir le diable partout. En même temps, faut pas le dire non, il est nulle part. Puis on peut toujours donner des explications, peu importe lesquelles, là, de quelle nature. Donc, c'est vraiment un bon équilibre à avoir, je crois. Ok. Fait que j'avais une histoire, mais je pense que le temps avance vite. Fait que je vais passer à ça. Je voudrais qu'on finisse en prière ensemble parce qu'à la fin, Paul dit « Priez en tout temps par l'Esprit, etc. » Puis il dit « Priez pour moi. » Et pour Paul, le combat spirituel était vraiment réel. Il était enchaîné, il était en prison à ce moment-là. Donc, il pouvait pas vivre plus d'opposition que ça à la cause qu'il avait pour Dieu. Et puis, il disait « Priez pour tous les saints et priez pour moi. » Et donc, j'aimerais peut-être juste qu'on finisse en prière pour l'avancement du royaume de Dieu. Juste, peu importe comment ce message trouve écho dans vos vies, qu'on puisse terminer dans la prière, parce que dans le fond, c'est ça le deuxième volet du message. Dans le combat spirituel, c'est l'intercession, c'est la prière qui compte. Et donc, je pensais peut-être juste on pourrait se lever ensemble, si les musiciens peuvent... En fait, il y a la Sainte-Seine, hein? OK. Bon, mais on va juste prier. Puis s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui veulent prier, sentez-vous libre. Et puis après ça, on va faire la Sainte-Seine.